Le journal de l'économie sur Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique à la une de l'économie ce matin. Ce sera l'un des dossiers prioritaires des maires élus ou réélus hier soir. Comment soutenir le petit commerce de centre-ville en 18 mois? Les commerçants des centres-villes ont subi deux crises, l'une territoriale, celle des gilets jaunes, puis l'autre sanitaire, celle du Covid. Alors certes, les boutiques administrativement fermées pendant le confinement ont bénéficié d'une annulation de leurs charges sur la période. Elles sont aussi éligibles au fonds de solidarité. Celui-ci doit d'ailleurs être élargi dans la semaine par le gouvernement. Mais il va aussi falloir aller plus loin afin d'éviter une vague de faillite chez les artisans et les commerçants qui ont pignon sur rue. L'État le sait. Et selon Les Échos, Céline Cajoulis, il serait prêt à racheter des locaux pour les louer à des prix attractifs.
La priorité, c'est de faire revenir les commerces alimentaires, comme les boulangeries ou les boucheries, dans le centre des villes, là où il y a des magasins vides. Un dispositif de ce genre baptisé Action Cœur de Ville existe déjà, mais là, il s'agit d'aller plus loin et sur la durée. Pour cela, l'État compte sur les villes, qui identifieront les emplacements et les besoins, et sur la Caisse des dépôts et consignations, qui financera les 10 000 opérations, pour un montant pouvant aller jusqu'à 1 milliard d'euros. De son côté, l'État versera une aide. Il sera par exemple possible de rassembler plusieurs boutiques pour proposer après travaux des emplacements plus grands, puisque c'est la demande actuelle, ou encore de racheter un local pour le louer moins cher, ou de le prêter quelques mois pour tester l'activité, et ensuite le louer si la boutique marche bien. Bref, faire tout ce qui est possible pour favoriser l'installation et le démarrage d'une activité, en passant soit par les sociétés foncières déjà existantes dans les villes, les régions ou les départements, ou en créant de nouvelles.
Comment soutenir le petit commerce? Il en sera d'ailleurs question aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés entament ce lundi l'examen du troisième projet de loi de finances rectificative, PLFR, marqué principalement par les plans de soutien sectoriel au tourisme, à l'aéronautique ou à l'automobile. Les aides ponctuelles, certes aujourd'hui, sont indispensables, mais cela suffira-t-il à reprendre demain le chemin de la croissance? Eh bien non, estime le METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Pour ce dernier, l'État doit alléger les impôts de production, et pas qu'un peu. Le METI propose de les réduire de 30 milliards d'euros. Alors le sujet est très sensible. Les impôts de production, ce sont par exemple la CVAE, la CFE, la C3S, des impôts qui garnissent prioritairement les caisses des collectivités locales. Le coprésident du METI, Philippe Dornano, a conscience du problème, mais selon lui, il en va de la compétitivité de l'industrie française, menacée de perdre 1,5 million d'emplois d'ici 2 ans. Je vous propose de l'écouter.
On aurait rapidement un retour sur l'investissement sur l'écosystème français, sur le travailler et produire en France. Donc, il nous semble qu'au moment où on envisage justement de s'endetter pour investir, il vaut mieux investir sur l'écosystème que de faire des investissements ponctuels qui ne vont pas donner un résultat durable. Une industrie qui s'affaiblit, c'est des savoir-faire qui se perdent. Une fois que ces savoir-faire sont perdus, c'est très difficile de les récupérer. Donc, à partir du moment où vous recréez un écosystème qui est favorable, toute une série d'industries vont redevenir compétitives en France. Donc, vous répondez à la double crise, la crise sanitaire et la réindustrialisation, et toute la question d'avoir une économie des territoires qui permette de créer de l'emploi.
Voilà, le coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, Philippe Dornano, au micro d'Éric Mauban.
Le journal de l'économie sur Radio Classique.
Il est 6h43 dans l'actualité également. Emmanuel Macron se rend en Allemagne ce lundi. Il va s'entretenir avec Angela Merkel à 2 jours de la prise de présidence par l'Allemagne de l'Union européenne. Emmanuel Macron très actif en ce moment sur la scène continentale. Lundi dernier, rappelez-vous, il s'était rendu aux Pays-Bas pour rencontrer le Premier ministre néerlandais Mark Rutte, considéré comme le plus frugal des frugaux. Le sujet, c'est bien sûr le plan de relance européen, un sommet crucial. Aura lieu les 17 et 18 juillet à Bruxelles. Début également ce lundi d'un nouveau round de négociations sur le Brexit, négociation marathon qui va durer 5 semaines, alternativement à Bruxelles et Londres. Le dialogue s'intensifie pour tenter de trouver un accord de sortie économique de l'Union européenne des Britanniques. L'actualité des entreprises avec cette vague antiraciste qui submerge les grands groupes. Alors il y avait d'abord eu, rappelez-vous, les messages de soutien aux manifestants suite à la mort de George Floyd. Des groupes comme Nike et Reebok avaient abondamment communiqué communiqué sur les réseaux sociaux. Il y avait eu aussi des dons massifs à des associations de parfois plusieurs millions de dollars. Ce week-end, L'Oréal est allé un cran plus loin en décidant de retirer certains mots de ses emballages de cosmétiques. Bonjour Eric Mauban.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Voilà, le géant de la beauté L'Oréal veut éviter le vocabulaire de l'éclaircissement de la peau, ça n'est pas anodin. Et d'ailleurs, ça ne plaît pas à tout le monde.
Oui, alors sont retirés du vocabulaire de L'Oréal les mots blanc, blanchissant, clair, éclaircissant, bref, tous les mots destinés à uniformiser la peau. Une décision qui ne concerne pas la France, elle vise surtout à satisfaire les clients indiens et chinois. Les nouvelles générations sont moins à l'aise que les précédentes pour employer des mots comme whitening, c'est-à-dire blanchiment en anglais. La direction de L'Oréal veut en tenir compte et assure que cela n'a rien à voir avec le mouvement politique américain Black Lives Matter. Il n'empêche, beaucoup de marques décident en ce moment de changer leur visuel afin d'éviter d'être montré du doigt. C'est le cas de la marque de riz Uncle Man's. Sur des réseaux sociaux, la décision de L'Oréal a déclenché un flot de réactions en tout genre. Certains appellent au boycott de tous les produits du groupe, considérant qu'il s'agit là d'une forme de racisme anti-blanc. À l'opposé se trouvent également des personnes pour dénoncer une opération de communication et demandent à L'Oréal d'aller encore plus loin en retirant du marché les produits destinés à uniformiser la peau.
Merci Eric Mauban. De l'art délicat pour les entreprises de se positionner sur les sujets de société, en particulier le racisme. Alors dans le même registre, Coca-Cola ce week-end a décidé de suspendre toutes ses publicités sur les réseaux sociaux pour 30 jours afin de forcer ces mêmes réseaux à faire davantage dans la lutte contre les propos haineux et racistes. Même décision chez Unilever, plus de pubs pour ses produits sur Facebook, Twitter et Instagram aux États-Unis. La réponse de Facebook ne s'est pas fait attendre, le réseau social a annoncé qu'il allait interdire plus de types de messages haineux dans les pubs et qu'il prévoyait d'ajouter des avertissements aux publications problématiques qu'il laisse en ligne. En bref, il va falloir guetter le ciel. Aujourd'hui, ce n'est pas encore officiellement confirmé, mais le Boeing 737 Max pourrait reprendre les airs dans la journée. Selon l'AFP, l'appareil devrait effectuer son premier vol de certification. Et puis, quand ça veut pas, ça veut pas. Quatrième report cette nuit pour le lanceur européen Vega, qui devait décoller du centre spatial de Kourou cette nuit, mais les vents en altitude étaient trop forts. Enfin, sur les marchés, quelles seront les entreprises qui feront la croissance économique dans les 10 prochaines années? La décennie 2010 avait été celle des GAFAM. Eh bien, selon Goldman Sachs, l'Europe est bien placée pour la décennie à venir. La banque américaine vient de publier une grande enquête sur les 50 entreprises à suivre. On compte 10 européennes et même 3 françaises. LVMH, Pernod Ricard et L'Oréal. Tous réunis sous un nouvel acronyme, les Granola, avec beaucoup de morceaux de laboratoire pharmaceutique dedans, puisqu'on y trouve GlaxoSmithKline, Roche, Novartis, AstraZeneca et Sanofi. Écoutez Alain Duret, il est économiste en chef de Goldman Sachs France.
On pense qu'il y a du potentiel dans ces entreprises-là. Ce sont de véritables petites pépites, parce qu'il y a eu un retard en fait, de croissance économique en Europe, et qu'aujourd'hui, non seulement l'Europe devrait rebondir et surperformer sur le plan macroéconomique par rapport aux États-Unis, mais c'est surtout aussi parce qu'on a plusieurs décisions politiques en Europe qui sont assez importantes, qui vont pousser la digitalisation, mais qui vont également accélérer la décarbonisation, où l'Europe est en train de prendre la tête dans ces domaines-là, et donc ces valeurs, les granolas qui sont exposées sur ces secteurs-là, devraient bénéficier de ces mesures.
Alain Duret, économiste en chef de Goldman Sachs France. Les marchés pour terminer, le CAC 40 en léger repli vendredi au fixing, moins 0,18%, 4909 points sur la semaine, l'indice parisien cède 1,40%. À Wall Street, morale en berne aussi du fait de la reprise de l'épidémie. Le Dow Jones cède vendredi 2,84%, 25 015 points. Il est 6h48 sur Radio Classique. Dans un instant, focus sur le rôle des maires dans la relance économique.